l'accent d'Europe. Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. La Russie, pièce maîtresse dans la résolution du conflit syrien, est en revanche peu confrontée à la question des réfugiés. Officiellement, seuls plusieurs milliers de Syriens ont cherché refuge dans le pays de Vladimir Poutine. En réalité, les ONG estiment qu'il serait au moins 10 000, mais la plupart vivent dans la clandestinité, faute d'obtenir la protection de l'État. C'est le cas à Lossino-Petrovski, une petite ville de 25 000 habitants près de Moscou, où une ONG, le Comité d'assistance civile, vient d'ouvrir un centre pour leur venir en aide. C'est le reportage d'Étienne Bouche.
Au numéro 4 de la rue Lénine, on installe des chaises, on nettoie les vitres et l'on sort les manuels scolaires des cartons. Le Comité d'assistance civique inaugure ses locaux à Lossino-Petrovski. Cette ONG russe apporte une aide aux populations réfugiées depuis plus de 25 ans. Elle a aujourd'hui donné rendez-vous aux Syriens de la ville. Il serait près de 1000 selon l'organisation. Les familles arrivent au compte-gouttes. Lorsque les présentations commencent, elles sont peu nombreuses. Un véhicule de police stationne à quelques mètres de l'entrée. Laila Rogozina est la responsable du centre d'accueil. Un centre destiné à apporter à ces réfugiés une aide humanitaire, médicale, mais surtout juridique.
Nous voulons les aider à se mettre en règle. Ils ne savent rien du système d'asile en Russie. On organise des consultations, on leur explique les choses, on les accompagne au service migratoire et on fait en sorte qu'ils soient reçus. La majorité d'entre eux vit dans les manufactures du coin et ils n'en sortent pas. Ils sont ici illégalement et ont naturellement peur de la police. Vous voyez, aujourd'hui, ils ont eu peur de la voiture de police et une partie n'est pas venue.
Dans la région, plusieurs usines de textile ont été abandonnées à la chute de l'Union soviétique. Certaines ont été reprises en main dans les années 90 par des Syriens. C'est ce qui explique la concentration de réfugiés autour de la ville de Noginsk. Là-bas, une école de langue russe pour Syriens a ouvert au mois de mars. Galina Leonidovna a commencé à donner des cours cet été à Lossino-Petrovski. Elle enseignera désormais ici, aux femmes et aux enfants dans un premier temps.
Ils ont très envie d'apprendre, ils font tous les exercices, même ceux qu'on ne leur demande pas. J'ai toujours un petit guide de conversation qu'il me reste de l'époque où mon mari était dans l'armée. Et quand on ne se comprend vraiment pas, je le leur montre, comme ça, ils peuvent chercher ce qu'ils veulent dire, du moins les adultes. Et je leur parle de Palmyre et de tous les lieux où j'ai eu l'occasion d'aller. Mon mari était basé à Damas dans les années 90. Du coup, je connais la ville, je sais comment c'était là-bas avant.
Parmi les personnes présentes, deux femmes en manteau de fourrure. Elles travaillent à l'administration locale. Elles saluent poliment les membres de l'ONG, mais indiquent en privé qu'elles n'ont pas été informées de l'ouverture du centre. La situation des réfugiés est compliquée. Faute de papiers en règle, ils vivent marginalisés et peuvent être expulsés à tout moment. Les enfants, eux, ne peuvent pas intégrer le système scolaire. Ils le pourraient s'ils maîtrisaient la langue. Selon Svetlana Ganouchkina, c'est un droit garanti par la Constitution russe. Cette militante historique des droits de l'homme a 74 ans et préside le comité d'assistance civique depuis 1992.
Ceux qui viennent sont des gens qui autrefois venaient travailler ici. Ils venaient avec un visa, repartaient en Syrie, puis ils revenaient toujours avec un visa, jusqu'au jour où ils n'ont pas pu rentrer chez eux. Ils sont alors devenus des réfugiés sur place, comme on dit. La deuxième catégorie de réfugiés au sens premier, ce sont les familles. Car ceux qui ne sont pas repartis ont fait venir leur famille. Là-bas, c'est dangereux pour les enfants. Du coup, ils sont maintenant beaucoup plus nombreux.
Deux membres de l'organisation tiennent des consultations individuelles avec l'aide d'un traducteur. Beaucoup ne connaissent que quelques mots. Le profil de Riyad se distingue. Cet homme d'une cinquantaine d'années porte un costume et parle sans difficulté. Il a obtenu la nationalité russe, ce qui a permis à son fils Mustapha de le rejoindre lorsque la guerre a commencé.
Mon père vivait en Russie depuis longtemps. Il est arrivé dans les années 90. Du coup, j'avais la possibilité de venir. Il m'a fait une lettre d'invitation et je suis venu. Je n'avais nulle part ailleurs où aller. On a travaillé et économisé pour faire venir ma mère, puis ma sœur. On vit ici, on cherche du travail. Quand on a des papiers, on travaille. Quand on n'en a pas, on ne travaille pas. On reste chez soi.
Comme Mustapha, la grande majorité des Syriens de Lossino-Petrovski vient d'Alep, l'épicentre de la guerre. Tant qu'un retour au pays est illusoire, l'organisation tente de sortir ces réfugiés de la clandestinité. Mais Svetlana Ganouchkina sait à quoi s'en tenir avec les autorités russes.
À ce jour, en Russie, seuls 2 Syriens ont obtenu le vrai statut de réfugié. Et environ 1 000 000 ont un statut temporaire. Les autres sont toujours illégaux. Malheureusement, le nombre de statuts temporaires diminue car on refuse de les prolonger. On le refuse notamment aux gens d'Alep. On le refuse parce que les critères pour lesquels était accordé ce statut de réfugié n'est plus valable. Peut-être faudrait-il acheter à ces gens une télé parce que tous les jours, on nous montre bien ce qu'il se passe à Alep.
En Russie, la politique migratoire est sévère et l'action de ce type d'ONG est limitée. Le comité d'assistance civique ne reçoit aucune aide de l'État. Il figure d'ailleurs sur la liste des agents de l'étranger, une terminologie qui désigne les ONG recevant des financements étrangers et exerçant, selon le pouvoir russe, une activité politique.
En Hongrie, les réfugiés en provenance de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan passent mais ne restent pas. 400 000 migrants ont transité par le pays l'an dernier avec pour objectif de rejoindre le nord ou l'ouest de l'Europe. Mais qu'importe, le parti d'extrême droite Jobbik joue à fond la carte de la peur de l'islam. Le maire du petit village d'Ashot Alom près de la frontière serbe en a même fait tout un programme préventif. En Hongrie, Florence Labruyère.
Le maire d'Ashot Alom, Laszlo Torockai, est persuadé que la société hongroise est menacée par l'islamisation. Pourtant, les musulmans sont peu nombreux en Hongrie, 40 000 sur 10 millions d'habitants, et ce chiffre stagne. Mais on n'est jamais trop prudent. Laszlo Torockai pense que des islamistes fanatiques sont au coin du bois. Alors il vient d'interdire toute construction de mosquées et de minarets dans son village. Pas question non plus pour une femme de porter un tchador ou de s'habiller en burkini à la piscine du village. Enfin, le maire interdit de faire la promotion du mariage entre homosexuels. Il a même publié sur les réseaux sociaux des panneaux d'interdiction où l'on voit un minaret et un tchador barré d'un trait rouge. À 38 ans, le maire d'Ashot Alom a fait toute sa carrière dans l'extrême droite. Aujourd'hui, il est l'un des vice-présidents du parti d'extrême droite Jobbik qui siège au Parlement. C'est lui, Laszlo Torockai, qui a eu l'idée de construire une clôture de barbelés le long de la frontière. Une idée reprise par le Premier ministre Viktor Orban. Mais le problème est que la liberté de religion et d'expression sont garanties par la constitution hongroise. Ces libertés ne peuvent pas être remises en question par des arrêtés municipaux. L'affaire a provoqué une levée de boucliers. Les musulmans de Hongrie demandent au gouvernement d'intervenir. Le commissaire aux droits de l'homme étudie la question, tandis que l'association pour les droits des homosexuels a porté plainte auprès du préfet. En tout cas, au sein du parti d'extrême droite, c'est le malaise. L'un des chefs du parti condamne le maire, tandis qu'un autre l'applaudit.
The successful candidate and new leader of the UK Independence Party with 9,622 votes, 62.6% of the votes, Paul Nuttall.
Today is the day.
Et quand on parle de populistes en Europe, voilà un parti qui a bien du mal à repartir. UKIP, l'artisan du Brexit au Royaume-Uni, cherche sa voie depuis qu'il a atteint son objectif principal. Son nouveau leader, qui succède au vibrionnant Nigel Farage, voudra aller chercher des électeurs sur des terres plus populaires. Paul Nuttall a été élu après des mois de crise. Marie Billon.
Fini de jouer, le UKIP a enfin élu son leader et cette fois c'est le bon. Enfin, c'est ce que dit le parti. Paul Nuttall a été élu avec près de 63% des voix et cette fois il semble avoir le soutien du parti, ce qui manquait à sa prédécesseur. Il a fait cette campagne en favori. Il est vrai que son principal concurrent avait dû se retirer après une bataille au point mémorable au sein même du Parlement européen. Sa priorité, a-t-il dit lors de son discours d'investiture, est désormais le rassemblement.
Today
Aujourd'hui, c'est le jour de l'unité pour le parti. C'est le jour zéro. Ça signifie que toutes les factions doivent travailler ensemble.
À 39 ans, ce député européen, ancien professeur d'histoire, a été le bras droit de Nigel Farage pendant 6 ans. Mais s'il va avoir du mal à prendre la suite de l'exubérant cofondateur du parti, il ne veut pas lui ressembler. Paul Nuttall est né à Liverpool. C'est un homme du Nord, contrairement à Farage, associé à Londres et au Sud-Est, la partie la plus aisée du Royaume-Uni. Avec son accent du Nord, le nouveau chef du UKIP veut attirer un nouveau type d'adhérents. Quand Farage voulait piller les rangs des conservateurs, Paul Nuttall veut faire son marché au sein du parti travailliste. Matthew Doyle est l'ancien chef de la communication du Labour.
La stratégie de Paul Nuttall est de viser les communautés dans le nord de l'Angleterre qui ont voté pour le Brexit et qui pourraient être attirées par le UKIP si elles estiment que le parti les représente le mieux. Et je pense que ça peut être dangereux pour les travaillistes.
Mais au-delà de cette main tendue, Paul Nuttall est un conservateur pur et dur. Il est en faveur d'un référendum sur la réinstauration de la peine de mort pour les assassins d'enfants. Il a évoqué dans le passé la restriction du droit à l'avortement. Il est contre le port du niqab et c'est un climato-sceptique. Il a aussi dit vouloir privatiser le NHS, le système de santé national, ce sur quoi il est revenu et il est déjà accusé d'avoir embelli son CV.
Suicide ou meurtre politique, la question agite le Kosovo depuis le début du mois dernier, depuis que le corps d'un militant d'opposition a été retrouvé sans vie dans sa cellule de prison. Astrid Dehari était un jeune étudiant en médecine accusé d'avoir jeté un cocktail Molotov sur le Parlement lors d'une manifestation. Le gouvernement maintient la thèse du suicide, mais il a bien du mal à être crédible face à une population excédée. C'est le reportage sur place de Simon Rico.
Cela fait maintenant un mois que le Kosovo est en ébullition. Sur les murs des villes, sur les réseaux sociaux et sur les pancartes brandies par la foule lors des nombreuses manifestations qui ont lieu dans tout le pays, on peut lire le même message « Justice for Astritin », justice pour Astrid. Vedven Dossier, le mouvement de gauche radicale au sein duquel militait Astrid Dehari, dénonce un meurtre politique. Vissar Imeri est le président de Vedven Dossier.
Nous considérons l'État du Kosovo et plus précisément le gouvernement du Kosovo comme les responsables directs de la mort d'Astrid Dehari. Astrid avait été arrêté et placé en détention sans aucune preuve contre lui et il est mort derrière les barreaux. Astrid Dehari a donc d'abord injustement été privé de sa liberté par les autorités qui n'ont ensuite pas assuré sa sécurité.
Étudiant en sixième année de médecine, Astrid Dehari s'apprêtait à passer ses deux derniers examens avant de commencer à exercer lorsqu'il a été arrêté par les forces spéciales de la police du Kosovo. Il était accusé avec cinq autres membres de Vedven Dossier de terrorisme pour avoir lancé des cocktails Molotov sur le Parlement lors d'une manifestation le 4 août. Cela faisait plus de deux mois qu'il se trouvait en détention provisoire lorsqu'il est mort dans sa cellule sans jamais avoir été interrogé par un juge. Selon la thèse officielle, il se serait suicidé, une version que conteste fermement Tom Gashi, le ténor du barreau qui défend la famille des Harry depuis la mort de leur fils.
Dans cette histoire, tout n'est que mensonge. Il est certain que quelqu'un a tué Astrid Dehari. On explique qu'il s'est tué en se mettant une bouteille en plastique au fond de la gorge, mais c'est impossible de se suicider comme ça. Je pense que cette bouteille a été placée là après qu'il soit mort et qu'on l'a en réalité étouffé avec un coussin. En revanche, je ne peux pas dire s'il a été tué dans sa cellule ou hors de la prison.
Selon les photos du rapport d'autopsie, le corps d'Astrid Dehari présentait de nombreuses lésions qui laissent à penser que le jeune homme a été frappé peu avant sa mort. Les déclarations contradictoires des autorités alimentent aussi les doutes sur les causes réelles de son décès. Devant la confusion générale et l'onde de colère qui se propage dangereusement au sein de l'opinion publique kosovare, la société civile réclame l'ouverture d'une enquête indépendante avec une assistance internationale. Pour Bessa Louja, qui coordonne les actions des ONG, cette affaire rappelle une période sombre de l'histoire récente du Kosovo.
Nous, les acteurs de la société civile, nous nous sommes très vite mobilisés. Pour nous, une telle affaire est impensable dans notre pays. C'est déjà arrivé que des civils soient assassinés, mais c'était par l'armée serbe, ou que des prisonniers meurent en prison, mais c'était à l'époque du régime serbe. Voir que cela a lieu à une époque qui se veut démocratique, cela nous paraît inacceptable.
This is not acceptable.
Corruption, chômage endémique et absence de perspective, 8 ans après l'indépendance, un vent de révolte souffle sur le Kosovo. De plus en plus d'habitants ne croient plus en ceux qu'ils accusent de tenir le pays d'une main de fer depuis la fin de la guerre et descendent dans la rue fréquemment, parfois même violemment. Pour Avni Dehari, le père d'Astrid, son fils est la victime d'un système prêt à tout pour garder le pouvoir, même à tuer ses propres enfants.
Je pense que mon fils est un symbole, c'est un militant qui se battait contre tout le mal que fait le pouvoir ici au Kosovo. Mais le pouvoir actuel fait tout pour bâillonner la jeunesse, pour qu'elle arrête de porter la contestation qui ne cesse de prendre de l'ampleur contre son action.
Faire toute la lumière sur la mort d'Astrid Dehari constitue un test crucial pour les fragiles institutions du Kosovo qui doivent plus que jamais prouver qu'elles s'engagent vraiment en faveur d'un état de droit. Même les Américains, les plus fervents soutiens internationaux de Pristina, font aujourd'hui pression en ce sens, de peur que cette affaire ne provoque une explosion sociale incontrôlable. Comme le dit une enseignante venue présenter ses condoléances à la famille Dehari, « Nous ne laisserons pas le Kosovo devenir une dictature à la Pinochet ».
Drôle de procès en Turquie. À Istanbul, une mère a été poursuivie en justice pour avoir jeté sur son fils turbulent une pantoufle. L'affaire a fait grand bruit dans le pays car le jeté de pantoufle est une tradition qui a davantage les faveurs des parents que la gifle ou la fessée. Mais le long du Bosphore comme ailleurs, les châtiments corporels ne sont plus bien vus. Ananda Lauer.
Quelle mère turque n'a pas au moins une fois jeté sa pantoufle en plastique, en cuir ou en tissu en direction de sa progéniture un peu trop turbulente? Désormais, celles que la savate titille devront y réfléchir à deux fois. Une mère de Denizli, dans l'ouest de la Turquie, risque entre 2 ans et 50 prison après que son fils de 38 ans a porté plainte pour une agression à la pantoufle. Les faits se sont produits le 13 mai dernier dans l'appartement de Şenay Güzel, 62 ans. En pleine dispute avec son fils, cette mère de famille a déchaussé sa mule en plastique pour la lancer contre son grand garçon qui venait de l'insulter, a-t-elle raconté dans sa version des faits. Le projectile a manqué sa cible, ce qui n'a pas empêché Hasan Güzel de porter plainte au commissariat de police. Confiée à un procureur, l'enquête a conclu que Şenay Güzel s'était rendu coupable, je cite, « de tentative de blessure volontaire », un délit puni de prison par le code pénal. Le parquet a, de fait, considéré la babouche turque comme une arme à part entière. « Il m'a insulté, je lui ai jeté mon chausson qui ne l'a même pas touché », a dit la mère pour sa défense. « Et même s'il l'avait touché, il ne l'aurait pas blessé, il ne lui aurait même pas fait mal. Je purgerai ma peine, il n'y a rien d'autre à faire. Mais y a-t-il une seule mère en colère qui n'ait pas jeté sa pantoufle contre son enfant ?» a plaidé Şenay Güzel, qui sera prochainement présenté à un juge. Son avocat, visiblement interloqué, a qualifié le chausson, je cite, « d'élément indispensable pour les mères dans la société turque » et de conclure en se demandant si la Turquie allait désormais juger toutes ces mères qui jettent leurs chaussons. L'histoire a en tout cas beaucoup fait rire sur les réseaux sociaux. Certains racontent leurs souvenirs d'enfance et livrent leurs meilleures astuces pour esquiver les tirs de pantoufles. D'autres imaginent combien d'années ils pourraient demander contre leur propre mère, la perpétuité bien souvent. D'autres enfin détournent des photos de chaussons comme ce jeune homme qui propose une savate à poils roses avec la mention « arme à vendre, pas de permis requis ».
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Groslot. Retrouvez-nous sur notre site RFI.fr à la rubrique émissions et sur notre page Facebook Accent d'Europe. Restez à l'écoute de RFI dans quelques instants. Un nouveau point sur l'actualité sur nos antennes.